journal de Florence Paracuellos. Bonjour Florence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, une guerre de 100 jours en Ukraine. On n'en voit pas la fin, les Russes gagnent du terrain et tout a changé pour les Ukrainiens, même quand ils ne sont plus sous les bombes, vous allez l'entendre. Deux fois plus de bleus au Stade de France ce soir pour le match France-Danemark. Le préfet de police de Paris sort l'artillerie lourde pour ne pas rejouer le fiasco de samedi dernier. Pour une révolution culturelle à l'école et le retour des maths en première, Emmanuel Macron et l'éducation. On en parle dans le grand entretien, Jérôme.
Oui, avec deux invités, la professeure et secrétaire générale du SNES-FSU, le premier syndicat des collèges et lycées, Sophie Vénétité, et le directeur de Sciences Po Lille, copilote du comité de suivi de la réforme du bac, Pierre Mathiot. Deux invités dans le grand entretien de la matinale pour répondre à vos questions que vous posez dès maintenant au 01 45 24 7000.
Plus mortels que les armes à feu et les accidents de la route réunis aux États-Unis, les overdoses montent en flèche. 108 000 l'an dernier, nous y serons. Des congés sabbatiques rémunérés, ça fait rêver, ça existe vraiment en France. Dans quelques grandes entreprises et start-up, les salariés respirent et ils reviennent au boulot. Et puis respirer, ça n'est pas encore le moment pour Raphaël Nadal. Serrer les dents contre la douleur et se qualifié en finale de Roland-Garros, ce sera ça son objectif du jour.
France Inter.
Comment les Ukrainiens vont-ils tenir? Les lance-missiles promis par les Américains permettront-ils de freiner l'avancée de l'armée russe qui s'acharne sur le Donbass et qui contrôle désormais 20% du territoire ukrainien à l'est et au sud? 100 jours de guerre, 100 jours de bombardement, des morts par dizaines de milliers, plus dans la capitale, Kiev, où la vie a repris ses droits, même si là-bas, rien n'est plus comme avant. Reportage signé Boris Loumagne.
Dans ce parc tout en fleurs, on pourrait croire que la guerre est un lointain souvenir. Mais en discutant avec les habitants, on comprend vite qu'il n'en est rien. Assis sur un banc, le regard vide, Oleksandr pense à sa famille partie se réfugier à l'étranger. Il se sent seul. Depuis 100 jours, il se sent mal.
Je dors moins qu'avant et je dors mal à cause de cette nervosité que je ressens constamment. Je regarde des informations sans arrêt jusqu'au petit matin. Je mange moins que d'habitude aussi à cause de mon inquiétude.
Des hommes et des femmes marqués à vie par l'expérience de la guerre. Olga a connu Kiev sous les bombes. À 34 ans, elle, la danseuse de ballet, a perdu un peu de sa légèreté.
Cette peur pour ma sécurité personnelle, c'est quelque chose que j'ai en moi désormais et que je pense je vais garder pour toujours.
L'inquiétude, un sentiment d'urgence également. L'urgence de profiter de tout ce que la vie peut lui offrir.
Avec cette guerre, je commence à apprécier les petites choses toutes simples. Comme se réveiller en vie le matin, pouvoir embrasser celui qu'on aime, avoir chaque jour le plaisir de vivre, mener sa vie avec simplicité et apprécier chaque moment de cette vie.
Comme être assise sur ce banc, au soleil, dans ce parc.
Boris Loumagne, envoyé spécial en Ukraine. 100 jours de guerre et des millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Ils sont 95 000 en France, nous apprenait hier sur France Inter le préfet chargé de leur accueil, dont 17 000 enfants scolarisés. Ils apprennent en français, mais certains suivent aussi des cours en ukrainien, comme dans cette école parisienne où s'est rendue Faustine Kelmel.
Ce jour-là, ils sont une poignée d'élèves.
Надія Двинесюк, Рапунюк Данило.
À suivre la leçon de Diana. Ils viennent de Kiev, Odessa ou Kharkiv. Et quand on demande à leur enseignante pourquoi elle dispense son cours en ukrainien,
parce qu'ils sont ukrainiens, comment leur enseigner autrement? Et puis ils doivent sentir le lien avec leur pays, que la nation a besoin d'eux. Les parents veulent que leurs enfants continuent à apprendre la langue et enrichir leur vocabulaire.
Pour certains russophones, ces cours sont aussi l'occasion d'apprendre à mieux s'exprimer en ukrainien, signe d'un patriotisme naissant. Dans la classe voisine, Victoria raconte l'histoire de l'écrivain Mikhail Stelmar. Enseignante depuis 26 ans, elle explique que son élève Maria suit les cours de l'école française, mais tenait à venir pour cette leçon de littérature. Maria, en France depuis 3 mois.
Je rêve de retourner chez moi le plus vite possible, alors je ne veux pas oublier la langue ukrainienne.
La jeune fille se connecte aussi régulièrement aux cours dispensés via Internet par ses professeurs et rester en Ukraine. Les jeunes réfugiés en âge de passer le ZNO, l'équivalent du bac, devraient aussi pouvoir le faire cet été en France, dans leur langue maternelle.
Et pour les élèves français, c'est donc le retour des maths en première. 1/3 n'en faisait plus du tout depuis la réforme du bac. À la rentrée, ils pourront rejouer avec les chiffres. 1h30 de maths en option avant d'être réintroduits pour tous l'année suivante, annonce d'Emmanuel Macron hier.
Et ce sera le thème du grand entretien de la matinale à partir de 8h20. France-Danemark, c'est du football et c'est ce soir au Stade de France.
Un match de Ligue des Nations sous haute surveillance après la déroute de l'organisation de la finale de Ligue des Champions samedi dernier. Alors cette fois, le préfet de police de Paris a fait les choses en grand. 2 fois plus de policiers et de gendarmes et 3 priorités, Emmanuel Leclerc, l'ordre public, la lutte contre la délinquance et la régulation des flux de spectateurs.
La semaine dernière, 9 unités de force mobile avaient été déployées dans et autour du Stade de France, soit près de 900 policiers et gendarmes mobiles. Ils seront ce soir 1424 répartis en groupes d'intervention au cas où. Mais là où c'est encore plus spectaculaire, c'est pour la lutte contre la délinquance dans les quartiers voisins ainsi que dans les stations de transport en commun, RER, métro et bus près du stade. 656 agents seront déployés contre 326 la semaine dernière. La préfecture de police de la capitale annonce également un dispositif spécifique de régulation des flux. Il sera mis en place à la sortie du RER D. Il était inexistant la semaine dernière et l'une des principales raisons du fiasco. Même si cette fois, a priori, les supporters auront des billets sur leur smartphone ou sur papier avec des hologrammes qui ne feront pas planter les scanners au tourniquet au moindre QR code défaillant ou faux. Et il n'y aura aucun supporter sans billet. Un périmètre de protection sera enfin enclenché dès 15h avec des policiers en civil et en tenue chargés de dissuader et de traquer les pickpockets et autres voleurs à l'arraché.
Mais cette fois, il faut le signaler aussi, malgré la grève dans le RER B, le trafic sera quasi normal, annonce la RATP. Sur ce fiasco de samedi dernier au Stade de France, avons-nous entendu la Première Ministre Elisabeth Borne? Non, pas un mot depuis sa nomination le 16 mai dernier. Elle a donné seulement 2 interviews, fait une poignée de déplacements. D'où cette question, Maxence Lambrec. Pourquoi la Première Ministre est-elle aussi discrète?
Première semaine, l'affaire Abad. Deuxième semaine, le fiasco au Stade de France. À quoi bon aller sur les plateaux, se dit un député de la majorité. Elle n'aurait que des coups à prendre et des pièges à éviter. C'est logique, pour l'instant, elle ne maîtrise pas tous les dossiers, admet un conseiller. Elle enchaîne donc les tête-à-tête, les entretiens avec ses ministres. C'est une bosseuse, elle ne parlera jamais pour ne rien dire, confirme un de ses proches. D'ailleurs, la période de réserve l'empêche de faire des annonces. Ce n'est qu'après les législatives qu'elle pourra détailler le plan pouvoir d'achat. Sa première devise laisse aussi peu de place à la politique.
J'ai donné à mon gouvernement 3 mots d'ordre, rapidité, efficacité et résultat.
Une première ministre pragmatique qui, dans les pas d'Emmanuel Macron, ne veut pas non plus alimenter le match contre Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas elle ou lui à Matignon. Elle l'a simplement taclé dans une visio lundi soir avec des candidats de la majorité qu'elle n'ira pas soutenir sur le terrain. Il y a 5 ans, Édouard Philippe l'avait fait. Elle se concentre en fin de semaine sur sa propre campagne où la victoire semble acquise. Elle tiendra ce soir une réunion publique à Évrecy.
Et avant de s'occuper de sa circonscription, Elisabeth Borne a tout de même fait un tour hier après-midi dans l'Essonne pour soutenir 3 marcheurs et promettre de nouveau une réponse au problème du pouvoir d'achat. Pas de reine à la messe du jubilé ce vendredi. Elisabeth II, ses 96 ans dont 70 ans de règne, n'y assistera pas car elle a ressenti un certain inconfort hier lors de la parade en son honneur. Ce sont les mots de Buckingham Palace, some discomfort. Elle est apparue 2 fois au balcon du palais, acclamée par des dizaines de milliers de Britanniques. Interdire la vente de fusils d'assaut, ne serait-ce qu'au moins de 21 ans. Joe Biden repart à la charge aux États-Unis et implore le Congrès face aux tueries quotidiennes qui endeuillent le pays. Encore il y a quelques heures, sur le parking d'une église de l'Iowa, 2 femmes abattues, ou la veille, dans un hôpital de l'Oklahoma, 4 morts. Mais plus meurtrières encore sont les overdoses aux États-Unis. 1 décès toutes les 5 minutes. 108 000 morts l'an dernier, chiffre en hausse de 15% par rapport à 2020, avec un produit particulièrement mortel, le fentanyl, un opioïde de synthèse. À l'origine, c'est un puissant antidouleur. Il fait des ravages, notamment chez les jeunes. Sébastien Paour, qui ne savent pas toujours ce qu'ils prennent.
Comme le fils d'Ed et Marie Ternan, qui est mort à 22 ans, 3 semaines avant de recevoir son diplôme universitaire.
Notre fils Charlie est décédé le 14 mai 2020 après avoir pris ce qu'il pensait être un cachet de Percocet qu'il avait obtenu d'une personne rencontrée en ligne. Mais la pilule qu'il a prise s'est avérée être une contrefaçon entièrement composée de fentanyl et l'a tué très rapidement. Un seul cachet a causé sa mort en quelques minutes.
in a matter of minutes.
Les États-Unis ont saisi plus de 20 millions de pilules contrefaites l'an dernier. 4 sur 10 contenaient du fentanyl, un produit beaucoup moins cher à produire et 60 fois plus puissant que l'héroïne et auquel les nouveaux clients deviennent rapidement dépendants, comme l'explique le docteur Nora Volkoff, qui dirige l'Institut national sur l'abus de drogue.
N'importe quel médicament de nos jours peut potentiellement être mélangé à du fentanyl. Ce qui signifie que vous pouvez devenir physiquement dépendant sans même savoir ce qui vous arrive. Ou vous pouvez simplement faire une overdose.
Une campagne de sensibilisation doit être déployée cet été pour alerter sur les dangers du fentanyl. Elle sera financée par 3 poids lourds de la tech, Snap, Meta et Google. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
En France, 10 000 salariés d'Orpea appelés à la grève ce vendredi. Ils réclament le versement de leur prime annuelle d'intéressement qu'ils n'auront pas cette année puisque l'entreprise a provisionné des millions d'euros pour faire face au scandale de maltraitance révélé dans le livre Les Fossoyeurs.
Ne dites plus congé sans solde, mais congé respiration.
Et ajoutez-y un salaire. Ça n'est pas un fantasme, mais la réalité dans quelques entreprises qui veulent garder leurs salariés alors que la crise sanitaire a provoqué beaucoup de remises en question professionnelles. Voici donc, Claire Chaudière, les congés sabbatiques rémunérés.
Entre 2 et 6 mois de coupure, baptisés congé respiration ou congé priorité personnelle et avec maintien de tout ou partie du salaire, les formules choisies sont différentes selon les entreprises.
Les envies changent, les besoins changent. On tente des choses.
Jacqueline Averdrose, DRH France du groupe Accenture. Ici, on a par exemple opté pour un congé sabbatique de 3 mois, rémunéré à 50%.
Le Covid a été difficile pour beaucoup de monde. Il y a des salariés qui se sont dit vraiment j'ai besoin d'un break. Donc on s'est dit, proposons ça.
Parmi les premiers bénéficiaires, Thibault, parti en septembre dernier.
Le premier mois, je l'ai vraiment passé auprès de ma famille. Et le second mois, je suis parti 2 mois en van. Je ressentais une petite fatigue. J'ai sauté sur cette opportunité pour prendre du temps pour moi et puis de revenir frais sans forcément se poser des questions fondamentales sur où j'en étais dans ma carrière, même si c'est probablement le cas de certaines personnes.
Mais un risque qui s'avère en réalité payant, constate la direction.
Parmi nous, il y avait des personnes qui disaient « mais non, on peut pas faire ça ». Mais figurez-vous, il y en a déjà plusieurs dizaines qui sont revenus. Ils sont tous revenus. La guerre des talents, le monde change aussi. Il faut qu'on soit attractif.
Côté syndicat, on salue une avancée qui séduit bien les salariés tout en rappelant que le reliquat de congés non pris est chaque année très important et que cette solution reste probablement malgré tout moins coûteuse que la mise en place d'un véritable compte épargne-temps.
Claire Chaudière, ce sera son 15e anniversaire à Roland-Garros. Raphaël Nadal, 36 ans aujourd'hui, en demi-finale face à l'Allemand Zverev, numéro 3 mondial à partir de 14h45. Y sera-t-il dans l'espoir de décrocher un 14e titre à Paris? Tout est possible avec l'Espagnol, vainqueur dans la souffrance, puisqu'un os de son pied gauche se nécrose depuis des années. Un mal incurable qui pourrait bien précipiter la fin de sa carrière, Fabrice Abgral.
Cette douleur au pied gauche est sournoise. Elle peut se réveiller à tout moment, sans prévenir et disparaître le lendemain comme elle est venue. Et ça, Raphaël Nadal ne le supporte plus, à tel point qu'il laisse planer l'idée qu'il dispute peut-être son ultime Roland-Garros et que chaque match peut être le dernier.
Je ne sais pas ce qui peut arriver. Je joue ce tournoi parce que nous faisons en sorte que je le joue. Mais après ce tournoi, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai ce fameux problème au pied. Si nous n'arrivons pas à trouver une amélioration ou une petite solution, ce sera dans ce cas super difficile pour moi. Je vais continuer à me battre pour trouver des solutions, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas trouvé.
Raphaël Nadal donne l'impression d'être plus fort que la douleur. Si c'est le cas, c'est parce que Roland-Garros y est pour quelque chose, selon le Suisse Marc Rosset, ex-9e mondial.
Je ne suis pas sûr qu'il accepterait de se faire aussi mal que ça pour Wimbledon, mais c'est ici qu'il a gagné 13 fois le titre, et forcément avec l'ambiance, avec le public, avec le terrain qui doit lui donner aussi de l'énergie, tout ça, il repousse ses limites.
Mais jusqu'à quand? Raphaël Nadal expliquera à la fin du tournoi ce qu'il vit vraiment et ce qu'il envisage pour son avenir. Il y a 15 jours à Rome, il a déclaré qu'un jour sa tête dira stop, parce que, dit-il, la douleur m'enlève le plaisir de jouer.
Voilà, Nadal, Zverev, Nadal qu'on espère en forme cet après-midi, suivi de Rude Cilic sur le central. Ce sont donc les demi-finales de Roland-Garros. Enfin, ici, à la maison de la radio, on n'est pas loin du roulement de tambour, puisque le prix du livre Inter 2022 sera décerné dimanche. 24 jurés, 10 auteurs, il n'en reste qu'un à vous faire entendre, c'est Antoine Wetters, qui signe Mahmoud ou La montée des eaux, livre bref à l'écriture poétique pour un grand sujet, la guerre en Syrie.
C'est un livre qui est né d'une envie de parler d'un sujet actuel, dont on parle peu, qui est la guerre en Syrie. Et plutôt que de faire un grand livre qui parlerait de tout ce qui se passe actuellement en Syrie, je me suis concentré sur une zone géographique spécifique, qui est le lac Assad, liée à l'édification d'un barrage, le barrage de Tabqa, qui était créé au début des années 60 par Hafez el-Assad, le père de Bachar. Et ces villages ont été engloutis. Et je raconte l'histoire d'un vieil homme, Mahmoud. Tous les jours, sur sa barque, sur ce lac, avec son masque et son tuba, il va plonger pour essayer de retrouver ce passé englouti. Pendant que, au même moment, la guerre est en train de se jouer autour de ce lac. Voilà, c'était une envie de parler d'un sujet contemporain avec les mots de la poésie pour essayer de faire ressortir l'humanité qui reste dans ces conflits dont on parle, mais parfois avec des mots qui sont tellement blancs, froids, qui sont des chiffres, qu'on a parfois du mal, nous vivant ici, à se sentir concernés.
Mahmoud ou la montée des eaux, c'est Antoine Wauters au micro d'Eva Bétan. Vous l'entendrez en longueur dans le journal de 13h. Ensuite, place aux délibérations des jurés ce dimanche. Puis ce sera la révélation du lauréat ou de la lauréate lundi matin à 8h.
Autour de la présidente du jury, Delphine de Vigan, qui sera avec nous lundi matin. Merci à vous Florence Paracuelos pour ce journal. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Stéphanie, de pulsations orageuses conduisent la journée.
Tout à fait mon cher. La première, elle est porteuse de grêle. Positionnée au réveil sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, elle remonte vers le centre, se décale vers l'est avant la fin de la matinée. Les pluies et l'aspect orageux se calment ce matin avant de reprendre de la vigueur cet après-midi sur une vaste moitié nord. Les orages seront modérés, évoluant de manière diffuse, lâchant ponctuellement quelques averses un peu plus denses. Et puis la seconde pulsation, dans le sud-ouest, après l'accalmie de la journée, la reprise de l'activité orageuse en fin d'après-midi sera plus intense, avec des cellules violentes qui vont pousser du côté de la Gascogne et du Béarn, remonter vers le nord-est avec un risque de grêle plus conséquent. 10 départements de cette zone sont placés en vigilance orange entre le sud de la Nouvelle-Aquitaine et tout Midi-Pyrénées sauf l'Ariège. Ces intempéries épargnent le sud-est, même si la journée s'y passe sous un voile nuageux dense et quelques gouttes sur le massif alpin.
Et des températures estivales?
Elles s'échelonnent entre 20 et 30 degrés. Plutôt 20 sur le littoral atlantique et de la Manche, 24 à 28 ailleurs. Il fera 22 degrés à Biarritz et Saint-Brieuc, 25 à Amboise, 28 à Paris-Saint-Étienne ou Besançon, jusqu'à 31 degrés à Istres, voire 33-35 dans le sud-est de l'île de Beauté.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure. Il est 8h17, géopolitique.